Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Les leçons des élections municipales récentes ont été tirées immédiatement par les élus et les médias. Des analyses plus fines, plus poussées sont en cours. Mais d'ores et déjà, le repérage des points saillants sur le système démocratique peuvent être éclairants pour les citoyennes et les citoyens, grâce aux lumières apportées par la recherche. Voilà pourquoi j'ai invité Aurélia Troupel. Merci d'être venue au micro de Divergence. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier, responsable du master des métiers des études et du conseil. Vous faites aussi partie du CEPEL, une équipe de chercheurs, le Centre d'études politiques et sociales. Vous y avez orienté vos recherches sur les réformes électorales, la sociologie du personnel politique, la parité en politique. Aurélia Troupel, qu'est-ce qui vous a conduite à choisir, au début de votre parcours, ce champ de recherche ?
Alors, au tout début de mon parcours, je me suis plutôt axée sur la question de la parité en politique, ouais, parce que j'ai eu la chance de devoir faire des mémoires, des travaux d'étudiants en 98, au moment où, en fait, il était question de... on était en plein débat sur la loi sur la parité, sur est-ce qu'il fallait une révision constitutionnelle ou pas. Et en fait, j'ai été stupéfaite de voir l'existence de ce plafond de verre. Et c'est ce qui m'a donné envie de...
Et le très faible nombre de travaux... sur ce sujet, qui plus est, c'est un sujet neuf.
Complètement, complètement. Et donc, en fait, après, naturellement, j'ai voulu voir, une fois que la loi avait été adoptée, si elle allait fonctionner. Et donc, c'est comme ça que j'ai analysé chaque élection depuis son entrée en vigueur.
Après, les progrès que la parité a peu à peu été enregistrés. Alors, vous le savez, avant que nous fassiez profiter de votre regard sur les élections municipales, bref détour, comme d'habitude dans cette émission, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi ?
Alors, je crois que ça commence, c'est quand je viens à pied, généralement à la fac. D'abord, j'adore passer par les Beaux-Arts et surtout aller dans les petites ruelles aux alentours de la fac et un peu ailleurs, parce que, en fait, ce qui m'éclate, c'est d'aller chercher et de repérer tous les nouveaux collages des street artistes, tous les petits Space Invaders et tout. Ça m'éclate toujours.
Exactement.
Artistique et politique.
Voilà,
parce
qui jalonne la ville.
Exactement. Et je trouve que c'est une richesse culturelle qui est incroyable.
Ah, il faudrait qu'on fasse un Racontez-nous votre Montpellier spécial en se promenant dans les rues de Montpellier.
Exact. Tiens,
il faudra faire ça un de ces jours. Alors revenons-en au municipal. Commençons par examiner les effets de la loi du 21 mai 2025, peu commentée parce qu'elle concerne les communes de moins de 1000 habitants. Jusqu'alors, elles échappaient à l'obligation de liste paritaire. La persistance de l'inégalité entre les hommes et les femmes a pris fin dans ces communes lors des récentes élections municipales. Aurélia Troupel, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, quelles conséquences la modification du mode de scrutin a-t-elle eu, a-t-elle engendré des difficultés ?
Alors, la loi du 21 mai 2025 a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ces petites communes, ces très petites communes qui représentent une part non négligeable des communes françaises et qui rassemblent près de 30% de la population. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que donc on est passé d'un scrutin uninominal, donc où le décompte des voix se faisait avant sur le nom des candidats, à un scrutin de liste. Donc pour se présenter aux élections, les candidats devaient...
Donc, ça veut dire qu'avant, on décomptait le nombre de voix pour chaque candidat.
C'est ça.
Monsieur Machin, 38. C'est ça. Madame Machin, 42.
C'est ça.
Et ainsi de suite. Là, scrutin de liste bloqué, donc.
bloquée et paritaire. Donc il fallait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et alterner, comme c'est le cas dans les grandes villes, avec toutefois une forme d'aménagement pour faciliter la confection des listes avec ce système de plus 2, moins 2. Donc les candidats pouvaient déposer une liste avec jusqu'à 2 candidats en moins que le nombre d'élus que celle-ci devait normalement pourvoir.
Donc un peu de souplesse. Hein.
C'est ça. Donc par exemple, si pour un conseil municipal d'une commune de moins de 100 habitants, il fallait élire 7 conseillers. Si une liste de candidats comportait 5 ou 6 noms, ou 7 évidemment, ouais, elle était valide. Et si elle en comportait 8 ou 9, elle était également, également valide. Donc ça, ça a changé. Et en fait, juste un petit détail, c'est pas parce qu'auparavant il n'y avait pas d'obligation paritaire que dans les petites communes il n'y avait pas de femmes élues. Hein.
Bien sûr.
Il faudrait pas.
Donc certaines qui étaient maires.
Oui, et c'est souvent d'ailleurs dans les très petites communes qu'il y a plus de femmes maires. En tout cas, avant les élections municipales de 2026, on était quand même à 38% de femmes élues dans ces très petites communes.
C'est-à-dire une espèce de parité spontanée
Mais en fait, ça ne se pense pas vraiment comme ça. Dans les petites communes, c'est. Enfin, ce qui va privilégier les candidatures, ça va être qui va avoir du temps, qui va être compétent, qui a envie, qui peut s'investir. Voilà. Et c'est vraiment ça.
Donc ces critères de favorisant un engagement définitif,
exact,
qui était déterminant.
Exactement. Après, il peut y avoir d'autres logiques. Hein. Effectivement, il y a des cas où le fait d'appartenir à telle commune, à telle famille, pardon, ou d'être installé depuis tant de temps dans le village, ça peut jouer, mais ce n'est pas non plus systématique. Donc voilà. Donc là, la loi du 21 mai 2025 a changé tout ça. Donc les candidats étaient obligés de s'organiser en liste. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que on a observé un nombre très très petit de listes présentes dans ces communes, puisque avant le premier tour, on savait que 80% des communes de moins de 1000 habitants n'avaient qu'une seule liste.
Alors ça, c'est un phénomène qui s'est amplifié cette fois-ci par rapport aux élections de 2020.
Et bien par rapport à 2020, en fait, on n'a pas de point de comparaison, puisqu'il n'y avait pas de scrutin de liste. Mais en tout cas, ça veut dire que dans ces communes-là, les électeurs qui, avant, en 2020, pouvaient rayer, panacher, et donc un dispositif auquel ils étaient vraiment attachés, parce qu'en fait, ça leur permet de modeler le conseil municipal.
Alors, j'explique donc. Avant, donc, je peux barrer des noms sur la liste,
oui,
qu'il y en ait une ou plusieurs. Je peux ajouter des noms,
oui,
issus, bien sûr, d'une autre liste.
Oui, pas. C'est ça.
Donc, j'avais cette marge de manœuvre de composer une liste à ma façon.
Complètement.
Donc, cette liberté-là, cette opportunité a disparu.
A complètement disparu. Et là, du coup, les électeurs dans ces communes se sont retrouvés, quand il n'y avait qu'une seule liste, à pouvoir soit voter pour la liste dans son intégralité, soit à voter blanc, soit voter nul, c'est-à-dire qu'ils auraient continué à rayer, par exemple, soit à s'abstenir. Et donc, ça fait quand même des choix. Enfin, ça fait apparemment 4 choix, mais dans les 4 choix, enfin, en tout cas, dans les 4 options, il y en a 3 où leur voix n'est pas du tout prise en compte. Donc, ça, c'est...
On en reparlera de ça, de cette forme d'expression politique, là, qui n'est pas identifiée comme étant... ayant sa place, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour composer paritairement les listes? Ça, c'était une crainte que certains, avec une belle mauvaise foi, me semble-t-il, exprimaient.
Alors, il y a eu des difficultés pour composer des listes, ça très clairement. Par contre, c'est pour l'instant, enfin, à ma connaissance, personne n'a travaillé de manière quantitative,
oui,
pour essayer
avoir...
de voir si c'était du fait de la parité ou du fait du nombre de candidats suffisant. Parce que quand on est dans des très petits territoires, surtout dans des tout petits territoires où parfois, enfin, qui sont parfois vraiment vieillissants, bah, fatalement, en fait, il y a une forme de renouvellement qui est à organiser, qui n'est pas toujours simple, parce que quand ça fait 6, 12 ou 18 ans que vous êtes au conseil, vous avez peut-être envie
de
passer...
la main,
et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure. Et donc là, en fait, souvent ce qui a manqué, c'est, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y avait ce que j'appelle des moignons de liste, de seconde liste ou troisième liste qui auraient pu se monter, mais ils n'étaient pas suffisants pour, assez nombreux pour pouvoir s'enregistrer.
Exactement. Qui n'ont pas abouti, mais pour des raisons diverses et qui tiennent pas, d'après ce qu'on peut savoir à ce jour, faute d'études poussées, qui ne tiennent pas nécessairement à l'obligation de parité, parce qu'il y a d'autres raisons de trouver des gens qui veuillent bien consacrer du temps au bien commun. Quoi.
Oui, complètement.
D'accord. Alors, pour cela, le panachage, vous l'avez évoqué. Alors, ce panachage, il a été, comment dire, la fin du panachage, ça a été presque, vous avez pu constater, encore une fois, de manière qui n'est pas encore complète ou exhaustive, il a été bien compris, la fin du panachage, cette forme d'expression auquel les électeurs des communes de moins de 1000 habitants ont dû renoncer.
Alors, bien compris, oui et non. Je m'explique. Bien compris, ils savaient, enfin les électeurs savaient bien que la plupart, hein, je suis en train de dépouiller, j'ai fait trois séries de questionnaires dans trois communes de l'Hérault qui ont accepté de se prêter au jeu. Et donc je demandais justement aux électeurs à quel moment ils avaient appris que le changement de mode d'élection, le changement de mode de scrutin, par quels moyens, etc. Et très peu l'ont appris le jour même en entrant dans le bureau de vote.
Les candidats et à fortiori les maires sortants ont envoyé le message en disant « Attention, chers concitoyens, changement de... »
Et qui plus est, le ministère de l'Intérieur, quelques jours avant le premier tour, craignant vraiment une affluence de vote nul, avait mis en catastrophe sur place toute une campagne de communication. Et donc, quand vous entriez dans les bureaux de vote, vous aviez des grosses affiches qui vous expliquiez que si vous rayiez, c'était nul. Il y avait des petits flyers un peu partout. Et techniquement, les membres du bureau de vote devaient préciser oralement à chaque électeur que s'il rayait...
Pas de malentendu ou d'incompris. Voilà. Ah oui, c'est ça. D'accord.
Donc, de ce point de vue-là...
Communication tardive, mais communication malgré tout.
Voilà. Ils étaient informés. Par contre, là où j'ai tiqué, où j'ai fait un espèce de jeu sur le compris, c'est plus l'incompréhension par rapport à la réforme. Pourquoi est-ce qu'il fallait cette réforme et pourquoi est-ce qu'il a fallu le supprimer? Alors certains l'ont relié à la parité, parce que c'est souvent comme ça que ça a été présenté, mais en tout cas, il y avait là-dessus une forme de
cette
regret.
Idée que les petites communes avaient grosso modo, à quelques détails près que vous avez indiqué, le même système que les grandes et très grandes communes, cette espèce de tout le monde dans le même système, n'était pas toujours été compris. Donc voilà.
Non, parce que, au contraire, justement, en tout cas, moi, parce que dans mon enquête par questionnaire, il y a des questions ouvertes donc, qui permettent aux électeurs de s'exprimer. Certains disent, mais en fait, dans les petites communes, on a besoin de pouvoir continuer à s'exprimer, à pouvoir choisir. Et il y a une forme d'inadéquation, en fait, entre une règle qui s'appliquerait pour Montpellier et la même règle s'appliquerait pour un village de moins de 100 habitants. Surtout qu'en plus, au final, il y a quand même des adaptations et tout n'a pas été vraiment complètement transposé pour les toutes petites communes.
D'accord. On verra aux prochaines élections c'est ce qui se passe. Alors, toujours en essayant de voir ce qui s'est passé dans ces communes de moins de 1000 habitants. Donc, instauration, vous l'avez dit, d'un scrutin de liste à la proportionnelle, avec, comme dans les grandes communes, une prime majoritaire de 50% pour la liste arrivée en tête au premier tour. Alors, quels effets a eu des nouvelles dispositions, effet positif ou peut-être négatif?
Alors, ça dépend du point de vue selon lequel on se place. Mmh. Si on raisonne du point de vue de l'équipe qui a gagné les élections, le fait d'avoir une prime majoritaire, donc ça veut dire que même en ayant gagné au coude à coude, la liste majoritaire a au minimum 75% des sièges, si ce n'est plus. Donc le maire est à la tête d'une majorité, ce qui lui permet de faciliter en fait la gouvernance ou l'action publique. Ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancien mode de scrutin, puisque comme c'était les électeurs qui composaient à la carte, parfois certains se retrouvaient maires, mais à la tête d'une équipe...
composite et peut-être ingérable.
En tout cas, avec une équipe qu'il n'avait pas forcément choisie, ce qui n'est pas forcément simple non plus pour gouverner. Alors, ce n'était pas non plus tout le temps comme ça, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais ça a pu arriver. Là, par contre, ce que beaucoup ont découvert, et là, je parle à la fois en termes de candidats et d'électeurs, le soir du premier tour, c'est cette espèce d'inanité, en tout cas, une forme d'injustice justement à cause de cette prime majoritaire.
amplificateur,
c'est ça,
de la prix majoritaire, c'est ça. 50% c'est ça. Pour l'arrivée en tête, même si elle arrive en tête avec trois voix,
exactement.
Cette mécanique là,
exactement,
un peu aveugle,
elle est imparable. Ouais. Et oui. Par exemple, donc un des trois sites dans lesquels on a enquêté avec les étudiants de la licence 3 en sciences politiques, c'était à Brissac. Donc entre les deux listes, il y avait un écart d'une seule voix. La liste gagnante a remporté 12 sièges et la deuxième, 3 sièges.
Aïe, aïe, aïe. Comment expliquer ça, oui.
Et c'est vécu vraiment comme une profonde injustice. Et il y a d'autres cas de communes dans lesquelles, parfois, les deux listes étaient à égalité. Il y a eu un deuxième tour. Les deux listes sont de nouveau arrivées à égalité. Et à ce moment-là, c'est la liste qui, avec les candidats les plus âgés, la moyenne d'âge des candidats les plus âgés, qui a remporté...
Ah oui, c'est ça, le critère de l'âge.
Oui,
ah,
c'est ça. Et c'est elle qui a remporté l'essentiel des sièges. Mmh. Et donc, toujours avec cet effet amplificateur et complètement disproportionné.
Oui, parce que dans les grandes communes, la différence de voix, c'est pas de quelques unités, sauf exception,
voilà.
C'est quelques centaines, quelques milliers.
C'est
donc,
ça.
Cette disparité ou cette distorsion n'est pas perçue, ou en tout cas n'est pas perçue négativement.
C'est ça, c'est ça.
Donc là, ça, typiquement... je ne sais pas si la loi peut changer pour donner... une forme moins mécanique, je dirais, de l'application du bonus pour les listes arrivées en tête.
Il y a des propositions qui commencent, des propositions de loi ou des prises de parole qui commencent à fleurir sur le sujet et qui seraient justement en faveur d'une prime majoritaire uniquement à 25%, comme c'est le cas pour les régionales et comme ça a été le cas
oui.
Paris-Lyon-Marseille,
oui,
là, où là, ça a été abaissé à 25%.
D'accord. Donc plutôt un système moins mécanique, moins aveuglement mécanique. Alors poursuivons ce panorama. Autant d'hommes que de femmes dans les conseils municipaux, certes, mais une des manières de mesurer clairement la place respective des femmes et des hommes dans les responsabilités politiques locales est la proportion de femmes maires. Alors où en étions-nous en France lors du mandat précédent? Combien de femmes maires et combien aujourd'hui?
Alors, on était à peu près 20% lors de la dernière mandature, et je crois que là, on arrive à 23%.
C'est ça, c'est les chiffres qui sont sortis là, au moment des élections. Donc, un petit, minuscule projet, progrès. Alors, comment vous analysez la persistance de cette énorme différence? Où sont en définitive, les freins, les différents freins qui se traduisent de la sorte?
Alors, je pense que les freins pour la fonction mayorale ne jouent pas ou ne sont pas exactement les mêmes.
Fonction mayorale, c'est-à-dire
la
fonction de maire.
Pardon. Ce n'est pas nécessairement les mêmes dans les petites communes ou dans les très grandes communes. Donc déjà, passer un certain seuil, il y a aussi une dimension engagement partisan, engagement politique, carrière politique qui joue davantage. Et comme la fonction de maire, c'est une fonction ressource qui permet après de déboucher, en fait, c'est un peu comme le bac quelque part, c'est ce qui vous donne accès...
C'est une porte ouverte à
exactement,
un parcours politique. Et d'autres fonctions, conseiller départemental,
exactement,
par exemple.
Exactement, député, sénateur, donc même s'il a loi sur le cumul ne s'applique plus. En tout cas, on sait que c'est un passage obligé. Mmh. Donc, c'est une fonction qui est convoitée, qui est recherchée, et donc n'importe qui n'est pas nécessairement candidat à la mairie de Montpellier, par
Bien
exemple.
Sûr.
Donc là, déjà, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, ça, par contre, c'est de manière globale. Il y a le moment, en fait, de l'entrée en politique, véritablement, le moment où les femmes commencent à être élues. Alors ça, je pense qu'on y reviendra après, mais généralement, l'engagement, que ce soit militant, politique ou même bénévole pour sa commune, ça nécessite beaucoup de temps. Et donc souvent, c'est, les femmes ont tendance à s'investir à un moment où la vie professionnelle et la vie personnelle sont déjà bien sur les rails.
Les enfants sont un peu grandis. J'ai un peu de souplesse dans l'usage de mon temps.
C'est ça. Et donc, à ce moment-là, elles peuvent se mettre sur... endosser ce qu'on appelle une troisième journée, qui est le temps du mandat municipal. Et puis après, on ne devient pas maire comme ça du jour au lendemain. Généralement, on a fait d'abord au moins un mandat en tant que conseiller, conseillère municipale, et puis peut-être un deuxième mandat en tant qu'adjointe, et c'est à ce moment-là.
Il y a quand même un cursus.
Ça prend entre 12 et 18 ans, enfin, ouais. Donc fatalement...
De faire ses premières armes et après de... Voilà. Alors ceci dit, bon, vous disiez le chiffre pendant qu'on préparait l'émission, 38% de femmes maires dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est
non,
ça
Non, conseillère
les...
municipale.
Conseillère municipale, d'accord.
Avant 2000.
Donc c'est-à-dire un gros tiers... spontané, en définitive, sans que la loi, on l'a bien expliqué, conduise à ça.
Parce que dès 2001, dès la toute première application de la loi sur la parité dans les communes de plus de 3500 habitants, il y a eu ce qu'on a appelé un effet d'entraînement. Hein, c'est l'Observatoire de la parité à l'époque qui l'avait qualifié comme ça et qui montrait que, fatalement, ce qui se passe dans les grandes villes, ça infuse dans les toutes petites communes. Sur la question des femmes mères, juste... Ce qu'il faut, là où il faudra peut-être à un moment réfléchir pour arriver à briser ce plafond de verre, c'est qu'on voit bien, en fait, pour le coup, là, qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement de l'application de la loi sur la parité pour les fonctions électives.
Ah oui.
Depuis 2008, dans les communes de plus de 3500 habitants, et depuis 2014, pour les communes de plus de 1000 habitants, dans les conseils municipaux, vous devez avoir autant d'adjointes que d'adjoints. Donc c'est vraiment des fonctions qui là sont un peu plus engageantes et qui donnent plus de responsabilités,
plus de temps, plus de soucis peut-être. Oui.
Et souvent d'ailleurs, hein, ce sont des adjoints qui après seront candidats pour être maire. Et là, on voit bien que ça ne fonctionne pas suffisamment.
Ça coince à ce niveau, d'accord. Alors, une autre donnée sur la parité réelle, et c'est ce que disent le type de délégation de pouvoir confié au maire, c'est-à-dire leur champ de responsabilité, que le maire leur confie dans les conseils municipaux. Alors, est-ce qu'on est dans le vrai si on dit, mais c'est peut-être caricatural, que sauf exception, les femmes, on leur confie les écoles et le social, et non pas les travaux publics et la sécurité ?
Alors ça, c'est effectivement, ça fait référence aux délégations dites masculines et les délégations dites féminines. Sous-entendu, les délégations presque régaliennes, les finances, les travaux, l'administration générale seraient dévolues aux hommes.
Et ce qu'on appelle le CAIR, là, c'est du côté des écoles. Non.
Alors, il n'y a pas d'études... complète, enfin vraiment trop significative à mon sens sur le sujet, ce qui s'explique par deux difficultés majeures. Première difficulté, c'est la comparaison d'une commune à une autre, c'est-à-dire que les libellés des délégations changent d'une commune à une autre.
Le périmètre concerné.
Oui, pardon, c'est ce que j'appelle le libellé, mais c'est exactement ça. Par exemple, dans une commune, vous pouvez avoir que la jeunesse, dans une autre, vous pouvez avoir jeunesse et sport. Quand il y a jeunesse et sport, déjà, c'est moins genré, souvent. Parfois, vous avez jeunesse et action sociale. Enfin, bref, et donc, pour pouvoir faire des comparaisons et des statistiques, c'est quasi impossible. Deuxième difficulté, c'est d'arriver à objectiver si les délégations sont dévolues ou si elles sont choisies. Si moi, je me mets à la place d'une conseillère, d'une adjointe d'une commune moyenne, je ne sais pas, 5000 habitants, qui fait ça en plus de travailler, etc., qui est prof, ça me semble... pas illogique qu'elle s'occupe des affaires scolaires parce qu'elle a une compétence professionnelle qui est complètement...
Éducatif, hein,
exactement. Et que si elle voulait aller sur l'urbanisme, par exemple, le temps de formation, vu la technicité, la complexité des dossiers, ce ne serait pas si simple. Donc, je pense que là, il faut vraiment complexifier...
Oui, plus nuancé dans un jugement complètement actif.
Et surtout, peut-être arrêter aussi de perpétuer certains préjugés, parce que ces fameuses délégations dites féminines, quand on regarde le budget alloué à ces délégations et puis surtout l'emprise ou leur poids dans la vie quotidienne, elles sont loin d'être secondaires ou d'être mineures. Donc peut-être aussi déjà en changeant le regard. En tout cas, je pense que c'est des questions beaucoup plus complexes que...
Oui, il ne faut pas être abusément simpliste.
Oui, je pense.
Simpliste. Très bien. Alors, un autre aspect, là, je regarde la montre, qui me paraît intéressant, c'est la question... des intercommunalités. Alors, lors des précédentes élections municipales, il y a les enjeux. Alors, les intercommunalités, je vous le rappelle, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, ont été très faiblement présents pendant la campagne. Ceci alors que les champs d'action sont considérables, le développement économique, le transport urbain, l'aménagement de l'espace, la gestion de déchets. Et ceci alors que la liste des candidats au conseil communautaire figurait sur les bulletins de vote à côté de la liste des candidats au conseil municipal, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants, m'avez-vous appris. Alors, que dire de ce déficit démocratique ou cette inégalité qui se perpétue dans les intercommunalités?
Oui, ça reste un des serpents de mer. Alors, on dit souvent que parmi les serpents de mer, il y avait le statut de l'élu, le cumul des mandats, et c'est la question de l'élection au suffrage universel direct,
conseillers. L'enjeu réel, c'est celui-là, quoi.
Oui, exactement, comme ça se passe pour la métropole de Lyon avec un scrutin autonome. Là, on n'y est pas du tout, donc là. Et c'est compliqué, en fait, de parler de l'intercommunalité pour un maire, sachant, par exemple, ou pour une liste en campagne, pendant la campagne, sachant qu'il ne sait pas quelles seront les autres listes qui seront élues. Donc, on peut pas s'engager, ils ne peuvent pas non plus s'engager sur de futurs projets ou sur...
Oui, bien sûr. Donc, quelle sera la majorité et sur quel programme va-t-elle tomber d'accord?
Exactement. Donc, ça rend les choses très complexes. Par contre, ce qui est sûr, c'est... Et ce qui pourrait être fait, c'est repréciser déjà, parce que je pense que tout le monde l'ignore, quelles sont les communes qui font partie du périmètre de la communauté de communes d'agglo ou la métropole, et surtout quelles sont les compétences en charge de chaque structure intercommunale, parce que ça varie d'une commune à une autre. Et déjà, que les citoyens puissent se repérer et dire, bah voilà, la question du transport urbain, c'est l'interco, ça, c'est pas mon maire. La question des crèches, c'est l'interco, c'est pas le maire. Le plan local, quand je veux déposer un permis de construire, c'est l'interco, c'est pas le maire. Bah déjà, ça changerait complètement les choses.
Donc. Par rapport aux besoins des gens, de leur vie quotidienne, qui repèrent, oui. C'est en gros, toutes les réponses ne sont pas à la mairie, à l'hôtel de ville.
Exactement.
Il y en a beaucoup qui sont ailleurs, et c'est allé croissant, bien sûr, ces dernières décennies.
Quoi. Exactement.
D'accord, donc ça, peut-être, on y reviendra. Alors, revenons sur les causes des carences de la parité. On a évoqué quelques-unes. J'incite la surcharge de travail domestique, qui peut diminuer quand les enfants sont grands, les obstacles dus au patriarcat ambiant, mais il me semble qu'il y a d'autres raisons, peut-être psychosociales. J'ai souvenu des propos de la directrice régionale d'une grande banque qui disait « Quand je propose une promotion à un homme, il accepte tout de suite. Quand je fais de même à une femme, presque toujours, elle s'interroge, en suis-je capable ?» Alors, en politique, est-ce le même phénomène?
Donc, pardon, je souris parce que ça me fait penser à ce qu'on appelle le syndrome du pilote de l'avion.
Alors, racontez-nous le pilote.
C'est issu d'une enquête qui demandait à des hommes et des femmes, voilà, si l'avion était sur le point de s'écraser, est-ce que vous vous sentiriez capable de piloter l'avion? Et donc, les hommes, très largement, se sentent capables, et les femmes, non. Et donc, effectivement, c'est un moyen un peu détourné d'aborder la question, mais effectivement, il y a ce sentiment de compétence, et j'avoue que là, par contre, ça fait un quart de siècle que je travaille sur la parité, et j'aurais jamais pensé entendre des discours que j'avais entendus en 2001 sur je sais pas si je serais capable, si j'aurais les compétences. Et c'est plus une question de c'est pas évidemment les compétences intellectuelles ou quoi que ce soit, mais c'est presque le côté le syndrome pour le coup de la bonne élève,
oui,
j'ai pas encore vu, j'ai pas encore appris, donc est-ce que je vais savoir?
C'est une espèce de modestie, peut-être, ou de réalisme, je sais pas comment appeler ça. Oui,
oui, peut-être un peu des deux, mais en tout cas, c'est là où il faudrait insister sur peut-être redire que justement la question du statut de l'élu permet aux nouveaux élus de suivre des formations et de travailler là-dessus, peut-être en prévoyant un stage d'une quinzaine de jours pour tous les nouveaux élus, et même tous les élus, parce que ça change en permanence, pour avoir fait les clés pour bien saisir ce que c'est. Parce que
s'approprient rapidement les bases de leur activité ou de leur responsabilité d'élu.
Exactement. Enfin, essayer de suivre et de voter sur un débat d'orientation budgétaire entre l'investissement et le fonctionnement. Enfin, si vous ne savez pas au tout début, c'est pas simple. Et pareil pour les délégations sur l'urbanisme, sur les travaux. Est-ce qu'il faut mettre une buse de diamètre 32 ou de diamètre 26? Bon, il faut quand même quelques clés. Donc ça, c'est sûr. Après, on a tendance à dire, et pareil, ça fait longtemps qu'on en parle et ça bouge pas, mais le fait qu'en 2026, les femmes continuent de s'occuper de 75% des tâches domestiques, alors qu'il y a eu tous ces progrès en termes de parité, en termes d'occupation de catégories socioprofessionnelles, etc., ça reste un des gros freins. Parce qu'il y a un moment...
La parité s'arrête à la porte de la cuisine, quoi, en gros, pour faire...
je dirais à la porte de la maison, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Les dernières études de l'INSEE, parce que ces chiffres sont des enquêtes officielles de l'INSEE ou de l'INED, disaient que les pères, quand ils s'occupent des enfants, donc c'est non, souvent pour jouer, mais en plus, ils s'en occupent pas tout seul. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un parent.
La maman pas très loin.
Voilà. Donc, tout ça, ça reste ça reste compliqué parce qu'à un moment, les journées ne font que 24 heures et que si on veut faire tout à peu près correctement, on ne peut pas tout faire. Donc voilà. Et je ne parle même pas des familles monoparentales, etc.
Bien sûr.
Parce que ça joue aussi.
Bien sûr. Alors, il y a bien d'autres sujets à aborder. Aurélie Trouvel, on l'a un peu évoqué, mais on ne pourra pas l'été toujours. La question de l'abstention, la question de la croissance de formes d'expression politique, le vote nul, le vote blanc, qui vont plutôt croissant, mais qui ne sont pas reconnus. Mais on aura l'occasion de vous inviter une autre fois. Je vous remercie, en tout cas. Et avant de finir, une information complémentaire. Vous voulez en savoir plus long, chers auditeurs, sur la place des femmes en politique. Voyez les communiqués, analyses et études d'une association, l'Observatoire régional de la parité d'Occitanie, vous l'avez cité, présidée par Geneviève Tapier. Elle œuvre depuis des années dans ce domaine, donc allez voir son site, je le répète, Observatoire régional de la parité. À la prochaine.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.